Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Parole d'Expert. Pour ce deuxième épisode, nous sommes toujours avec Brigitte Munch. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Et avec Maryse. Bonjour Maryse.
Bonjour Marjorie, Brigitte.
Alors je rappelle que Brigitte Munch est psychologue psychothérapeute et elle a commencé sa carrière comme enseignante de philosophie. Nous avions évoqué dans le premier échange la qualité de présence et la présence et son importance fondamentale, tout particulièrement dans le contexte que nous vivons en ce moment. Et nous allons, dans ce deuxième échange, approfondir encore cette question de la présence, mais surtout aborder des questions très concrètes sur le comment faire ensemble pour simplifier le quotidien des enseignants, des élèves et des parents à l'aube de cette troisième semaine de confinement qui commence. Alors, je vais laisser la parole à Maryse pour poser la première question à Brigitte Munch.
Brigitte, comment aider les enseignants à se sentir plus libres vis-à-vis des contenus de leurs enseignements ?
Alors, la première chose très paradoxale que je voudrais constater avec vous, c'est deux choses. On a beaucoup entendu ces derniers temps, dans cette deuxième partie de confinement, parce que au début, c'était nouveau, il fallait tâtonner et inventer une nouvelle relation, mais on a beaucoup entendu ces derniers temps des témoignages de situations de crise, d'enfants qu'on dit perdus, c'est-à-dire avec lesquels les enseignants n'ont plus le contact, et on constate une grande disparité dans la façon dont les enfants, les adolescents, les élèves peuvent répondre aux demandes de l'école. Une disparité liée aux conditions de vie, évidemment, et à toute la complexité du fait que l'enfant est à la maison, dans sa famille, coupé des liens habituels qui se tissent à l'école. Et parallèlement à ça, on voit que les enseignants continuent à préparer des cours exactement comme s'ils allaient venir faire cours en classe. Ils continuent à préparer leurs cours quelquefois avec des documents de 40 pages qui sont envoyés aux enfants, quelquefois avec des contenus que les enfants ne peuvent pas forcément aborder ou comprendre seuls. Donc ça crée un dysfonctionnement, on peut dire, d'une certaine manière, puisqu'on fait comme si tout continuait de la même manière. Et je crois que c'est un malentendu sur le terme de continuité. On fait comme si la classe continuait, alors que c'est la transmission qui continue, et elle doit forcément prendre une autre forme. Et ce malentendu, je pense, peut provoquer un profond découragement ou mettre en détresse beaucoup d'enfants, et les parents aussi, dans la mesure où ils sont obligés de prendre à ce moment-là une place particulière qui est d'assister énormément les enfants dans leur relation à l'école. Et évidemment, ça crée des situations très très compliquées. Donc, ma question, c'est comment, effectivement, je pourrais vous aider, nous aider, nous enseignants, à sortir de cette surenchère de contenu qui peut-être a pour but de nous rassurer, mais qui en fait est source de beaucoup de difficultés, pour prendre la mesure de la réalité de ce qu'on vit. Et la réalité de ce qu'on vit, c'est que les enfants, comme les adolescents, n'ont plus de contact direct avec leurs copains. Alors qu'on sait que tous ces échanges, qui ne sont pas directement tournés autour de l'enseignement, mais qui sont très importants pour la vie affective, tous ces échanges contribuent à la vie de l'école. Il n'y a plus d'échange avec les copains, il n'y a plus de vie de classe. Et la dynamique de groupe liée à cette vie de classe a disparu. Donc, demander aux enfants de faire leurs devoirs comme s'ils étaient en classe, c'est vraiment ignorer les lois fondamentales du développement humain. Nous sommes des animaux qu'on dit sociaux, mais moi je préfère dire affectifs. C'est-à-dire que nous avons un besoin vital à toutes les étapes de notre vie. On le voit en ce moment pour les gens malades, mais c'est vrai pour les enfants à l'école ou qui doivent continuer une forme de scolarité. Et c'est vrai pour nous adultes quand on est angoissé, etc. Nous avons besoin constamment de confirmation affective pour pouvoir nous sentir bien, heureux. Et ce sentiment du bien, d'être bien, du bien-être, ce sentiment profond est vital pour toutes nos tâches. Dès 4 ans, un enfant a besoin d'avoir un groupe d'amis en dehors de sa famille parce que sinon, il se sent enfermé dans des liens affectifs qui ne suffisent pas. La famille, elle est porteuse de sécurité, mais elle est aussi porteuse parfois de névroses, de difficultés, de drames, et encore plus dans une situation de confinement. En ce moment, nos vies affectives sont perturbées, c'est évident. Il y a de l'angoisse, de la fatigue, parfois des deuils. Et paradoxalement, alors qu'on vit beaucoup plus les uns à côté des autres, il y a une forme de solitude affective. Et c'est encore plus fort pour nos enfants et nos adolescents. Donc je pense que c'est très important que nous prenions conscience que notre métier d'enseignant doit acter cette rupture des conditions de la transmission. Je crois que nous devons accepter d'être non pas d'abord un site de ressources, ça il y en a des milliers et des excellents, mais plutôt des êtres humains qui sommes des liens de relation avec les enfants que nous accompagnons.
Brigitte, ce que vous explicitez, c'est que la classe à la maison ne doit pas être calquée et plaquée sur le modèle du fonctionnement à l'école. On le comprend bien. On comprend que le travail des enseignants n'est plus tout à fait le même. Du coup, concrètement, comment les enseignants peuvent-ils transformer cette mission d'enseignement dans ce contexte si particulier?
Alors, la première responsabilité, je crois, c'est de garder le lien avec chacun. Les enfants sont, la classe est atomisée. Chacun est seul chez soi. Donc, une des missions, je pense, de l'enseignant, c'est de garder un lien suffisant, autant que possible, avec chaque enfant pour évaluer le niveau de vigilance qu'il doit mettre en œuvre dans la façon de lui adresser le travail à faire, dans la façon de se rendre compte dans quel contexte il est, de percevoir derrière un travail, je prends un exemple très simple, par exemple, percevoir derrière un travail non fait, non pas seulement de la mauvaise volonté, de la paresse ou de profiter de la situation, donc de ne pas être dans une attitude de méfiance et encore moins évidemment de menace et de sanction, mais plutôt de prendre la mesure que derrière ça, il y a très souvent une angoisse, une difficulté qui effectivement donne un comportement de fuite, mais pas forcément intentionnellement méprisant vis-à-vis de l'école, ni de la part des familles, ni même de la part des élèves. Moi, j'entends énormément de témoignages d'enfants qui sont très inquiets de ne pas faire assez bien ce qu'on leur demande et qui ne savent pas ce qui va se passer quand ils vont retourner à l'école, qui ont peur de perdre le niveau, comme si vraiment, en quelques semaines, là maintenant, nos enfants pouvaient perdre des acquis fondamentaux. Ça n'est pas le cas. Je lisais encore hier des parents qui disaient, mon enfant est en train d'apprendre à lire. Il va louper l'étape de prendre à lire. Bien sûr que non. Ça va juste être différé. Et notre responsabilité, c'est que ce temps différé soit mis à profit pour autre chose. Et à ce moment-là, les enfants vont quand même aimer lire à partir de vécus différents. Donc, garder le contact, se retrouver. C'est très important que l'enseignant puisse donner aux enfants le sentiment qu'il est content de les retrouver régulièrement, soit par téléphone, soit à travers des écrits, soit à travers un contact par ordinateur, peu importe, comme l'enfant le peut aussi, encore une fois en tenant compte de la situation à la maison. Et puis, autre chose que je vois apparaître assez peu, c'est partager ce qu'on aura vécu. Le partager aussi avec les autres enfants de la classe. C'est-à-dire que je crois que les enseignants sont responsables de maintenir un lien entre les enfants. Très peu d'enfants, dans ceux que j'accompagne ou avec lesquels je suis en contact, gardent des liens vraiment de telle manière à avoir le sentiment qu'ils continuent à faire partie de ce groupe classe. Pour pouvoir faire ça, il faut que les enseignants développent leur capacité d'écoute. Et c'est une écoute profonde. C'est pas seulement j'écoute ce que tu me dis, mais j'écoute ce qui se cache derrière ce que tu me dis. J'écoute ce que je perçois de ton inquiétude, de ta difficulté, de tes questions. Grâce à ça, je pense que les enfants peuvent exprimer aussi des angoisses existentielles, des questions très fondamentales. En ce moment, il fait beau, les enfants regardent le ciel, ils ont du temps pour regarder le ciel. Il y a des questions très fondamentales sur le sens de la vie, sur la beauté de la vie, mais aussi sa fragilité qui surgissent en ce moment de manière étonnante. Il y a comme une sorte de maturité profonde, une maturité d'âme qui est en train de naître des conditions actuelles de vie. Et je pense que si les enseignants se saisissent de ça, vont permettre aux enfants de relier ce qu'ils vivent et ce qui est enseigné dans un certain nombre de disciplines. Et les neurosciences nous le confirment, tout ce qui est de l'ordre du questionnement intérieur profond, du plaisir, de la curiosité, d'une forme d'intelligence reliée à notre sentiment de vivre, sont des éléments fondamentaux pour développer nos capacités cognitives et notre mémoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on, plus que jamais, on prenne en compte que nous avons plusieurs formes d'intelligence qui se côtoient et qui travaillent ensemble, et que absolument nous faisions attention de ne pas tout restreindre à certaines facultés cognitives, c'est-à-dire apprendre, mémoriser, acquérir des savoirs nouveaux, mais qui ne seraient pas reliés à la vie. C'est un moment merveilleux pour le relier. Mais ça demande qu'on entre dans le monde des élèves, qu'on se mette un petit peu dans leur peau, qu'on les accompagne vraiment dans leur personne, dans leur personnalité, et puis dans ce qu'ils vivent à la maison. Donc, c'est l'occasion de créer un va-et-vient entre les savoirs et les expériences de vie, comme on le fait pendant les classes vertes, comme on le fait quand on fait des voyages, etc. etc.
Alors, Brigitte, vous nous parlez de ce qu'on peut apprendre voilà, pendant les voyages et à d'autres moments. Là, ce qu'on aurait envie de voir avec vous, c'est la modification des rôles entre les parents et les enseignants actuellement. Le rôle fondamental des parents, bien sûr, c'est d'éduquer leur enfant. Celui de l'enseignant, ben, c'est justement d'enseigner, c'est l'enseignement, son rôle fondamental. Or, en ce moment, la situation actuelle modifie complètement ses codes. Et on se rend compte, après 2 semaines d'école à la maison, qu'il y a des conflits qui apparaissent dans les familles, des difficultés. Quand le parent se transforme en enseignant de son enfant, il peut y avoir la tentation de jouer au maître ou à la maîtresse avec son enfant. Or ça, on sait que c'est pas souhaitable pour des relations parents-enfants harmonieuses. Les codes sont un peu bouleversés et c'est compliqué dans les familles. Et l'enjeu, finalement, c'est le savoir. Et c'est ce qui nous amène à la troisième question. Comment l'enseignant peut-il soutenir l'enfant dans la mise en œuvre des savoirs à la maison?
Oui, je pense à la lumière de cette question, je pense à une photo que j'ai vue récemment d'un père, et une photo qui était publiée de manière élogieuse, d'un père qui accompagnait ses enfants dans les devoirs. L'enfant était quasiment couché sur son travail. Le père tenait la règle d'un côté et de l'autre pendant que l'enfant traçait un trait. C'était un enfant de 8 ou 9 ans. Et cette photo m'a fait froid dans le dos parce qu'elle avait pour but de montrer combien c'est bon d'accompagner les enfants au plus près de ce qu'ils ont à faire pour l'école. Et en fait, si on se mettait à la place de cet enfant, on sentait très bien qu'il était complètement contraint dans ses gestes et qu'aucune confiance ne lui était faite, que justement, puisqu'il était à la maison, il avait le temps de pouvoir... rater 3 fois son trait, que la règle glisse, qu'il s'y reprenne, qu'il gomme et qu'il fasse l'expérience par lui-même de ce qu'il va faire. Donc je pense que la première chose, c'est donner confiance. Que les parents puissent laisser les enfants expérimenter pour que les enfants prennent confiance tout en restant présents. Hein, la présence, en étant présent à côté, en soutenant affectueusement l'effort, elle est importante. Mais c'est une présence affective, mais pas forcément mâcher le travail, dicter ce qu'il faut faire et même éventuellement contribuer à faire. Mais donner confiance à l'enfant que c'est une occasion pour lui d'expérimenter. Et ça ne pourra se faire que si les enseignants et les parents sont d'accord sur le fait que plus que de réussir, ce qui est important en ce moment, c'est essayer, s'exercer, découvrir, prendre le temps de retrouver le plaisir de faire. Je pense à des petits, par exemple, j'accompagne des enfants, et je pense à des petits, par exemple, qui ne savent pas manier des pinceaux. Quand ils manient un pinceau, ils frottent le pinceau comme un feutre, et les poils s'écrasent et se mélangent, et ça donne un résultat affreux. En ce moment, les enfants ont le temps de prendre un pinceau, de le tremper dans l'eau, de glisser, de caresser, moi je dis toujours le papier avec le pinceau, de telle manière que, de manière très sensuelle, l'enfant vit la beauté de l'aquarelle qui se dessine, de l'eau colorée qui apparaît sur le papier. Voilà. Il y a des tas d'expériences fondamentales d'apprentissage, quel que soit l'âge, et aussi même pour les grands, pour les adolescents, qui sont fondamentales et qui permettent de relier le savoir à ce qui est vécu. Donc voilà, un deuxième aspect qui me paraît important, c'est proposer aux élèves d'exprimer leurs désirs, leurs besoins, leurs envies. Par exemple, témoigner d'une expérience faite à la maison, creuser une question fondamentale, existentielle, par exemple, réaliser un dossier sur un thème qui passionne. J'entends très peu des enfants ou des adolescents qui témoignent de ce qu'on leur ouvre la possibilité de construire, à plusieurs même, c'est pas inenvisageable, un dossier sur un thème qui les passionne. Mais c'est une occasion merveilleuse puisque le contenu est un petit peu distendu. Je crois qu'on reste en France beaucoup dans une logique d'obliger à travailler. Et en ce moment, ce qui est important, c'est donner le goût, donner le plaisir. Donner le plaisir de lire un conte plutôt que de répéter des syllabes, par exemple. Travailler sur tout ce qui s'est passé pendant notre année de naissance, par exemple. Les enfants peuvent très bien, dans une classe, puisqu'ils sont tous de la même classe d'âge, essayer de recueillir toutes les informations qu'ils peuvent trouver sur ce qui s'est passé l'année où ils sont nés. S'intéresser à ce que c'est qu'un virus. Nous avons en permanence en nous des virus qui nous permettent de vivre. En ce moment, le virus est devenu un ennemi, mais en soi, il ne l'est pas fondamentalement. Pourquoi pas aider les enfants à découvrir cet aspect de la vie qui va ensuite relier plein d'aspects de la connaissance. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup pour donner l'initiative aux enfants et créer des liens profonds entre leurs aptitudes contemplatives, leurs questions, leurs réflexions, leur créativité, et puis les formes de savoir, soit qu'ils ont déjà acquis, soit auxquelles ils vont être confrontés par la suite de leur éducation. Savoir, ça n'est pas répéter, ça n'est pas seulement répéter, c'est intégrer. Et ça demande évidemment beaucoup d'imagination de la part des enseignants, et ça demande de garder le lien avec la famille, mais moi, je pense que ça pourrait aussi être l'occasion d'un travail pédagogique en équipe, peut-être plus riche, qui d'une part soutiendrait les enseignants, parce que c'est difficile ce qui leur est demandé en ce moment. Ça permettrait de partager entre eux leur ressenti de où en est leur classe, où en est tel ou tel enfant, comment prêter mieux attention à un tel qui a l'air d'être perdu, à un tel qui rend un travail qui n'est plus adapté, etc., etc. Et puis ça permet toutes les inventions pédagogiques dans la ligne de ce que je viens de suggérer. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, en fait, pour finir, c'est que cette continuité qui nous est demandée à nos enseignants, je crois qu'elle doit être plus pédagogique que d'érudition. Elle doit permettre de prendre les enfants par la main, de les guider, comme l'étymologie de pédagogéine le dit. C'est guider pour grandir, plutôt qu'un concours d'érudition qui va évidemment aggraver les inégalités et les souffrances d'un certain nombre de femmes.
Merci Brigitte pour tous ces éclairages, tous ces exemples concrets de pistes, de conseils pour les enseignants. Vous le dites, le métier d'enseignant est transformé. Vous le dites aussi, c'est très important de garder le lien entre les enseignants et les élèves, entre les enseignants et les familles. Et dans votre conclusion, vous dites aussi qu'il est très important de garder ce lien et peut-être de créer du lien entre les enseignants eux-mêmes. On le sait, ils ne veulent pas, ils ne souhaitent pas tous aggraver des inégalités, creuser des écarts entre les enfants. Alors, un dernier mot, Brigitte, justement pour dédramatiser et aider au mieux nos collègues. Comment est-ce qu'on peut prendre du recul?
Je pense qu'il faut se souvenir de notre enfance. Nous avons un trésor à l'intérieur de nous constamment qui est de se souvenir de la joie que nous avions pendant l'été, d'aller regarder pendant des heures les vagues revenir sur la plage, de comprendre le mouvement de la lune dans le ciel, de regarder les insectes dans l'herbe, de découvrir la liberté du corps dans le soleil, etc. Les enfants sont ancrés dans deux choses, c'est les sentiments très profonds qu'ils ont pour ceux qu'ils aiment, pour leurs proches, et pour ceux qui s'occupent d'eux, et très souvent l'enseignant en fait partie de leur univers affectif. Et puis, la joie de découvrir la vie, l'émerveillement de découvrir la vie. Et je crois qu'il faut que nous relions à ces facultés contemplatives profondes que nous avons, et sensuelles profondes que nous avons, pour que nous cessions de demander toujours une certaine quantité de travail aux enfants, mais que nous leur fassions sentir à quel point nous sommes heureux qu'ils comprennent et qu'ils découvrent la vie. Je crois que c'est la meilleure manière de prendre du recul. C'est se reposer, c'est pas ne rien faire, c'est faire autre chose.
Merci Brigitte, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à Marjorie.
Merci Brigitte.
Et à très vite dans un prochain Parole d'Expert.